cappuccino.
Voilà pour toi Laura, aujourd'hui tu vas nous parler d'un petit truc qu'on voit pas mal passer ces derniers temps.
Oh, c'est un fait plutôt anodin, on n'en entend pas trop parler dans l'actualité. C'est le passage de la réforme des retraites avec le 49.3.
Ah, on t'écoute.
Ce lundi 20 mars, la réforme des retraites a été adoptée suite au rejet de la motion de censure déposée par le parti transpartisan Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, LIOT. C'est suite au recours par la première ministre Elisabeth Borne du 49.3 que les parlementaires ont réuni leurs voix pour voter cette motion de censure dont l'échec s'est joué à seulement 9 voix près. Le président des Républicains, Éric Ciotti, avait annoncé que son parti ne voterait aucune motion de censure pour ne pas ajouter de chaos au chaos. Pour autant, ce sont 19 députés LR qui se sont finalement ralliés à cette motion transpartisane, LIOT. La seconde motion déposée par le Rassemblement national a elle aussi été rejetée. Le 49.3, ou plus précisément l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, prévoit lors du vote d'un projet ou d'une proposition de loi que le Premier ministre puisse décider d'engager la responsabilité du gouvernement. Son recours n'est possible qu'après délibération du Conseil des ministres. L'usage de cette disposition permet de suspendre les débats et de contourner le vote de l'Assemblée. Mais il peut aussi être empêché par le dépôt d'une motion de censure dans les 24 heures suivant la déclaration du Premier ministre. Celle-ci doit être votée par la majorité absolue des députés pour pouvoir être adoptée. Si tel est le cas, alors le projet de loi n'est pas adopté et le gouvernement est renversé. Cet article est fortement contesté et est souvent considéré comme antidémocratique. Il a été déclenché à 100 reprises depuis le début de la Ve République et pour la 11e fois par Elisabeth Borne depuis qu'elle est au gouvernement. Dans l'histoire, une seule motion de censure a été adoptée par l'Assemblée nationale et c'était en 1962. Le gouvernement Pompidou avait été contraint de démissionner et le président de Gaulle avait répondu par la dissolution de l'Assemblée. Pour revenir encore sur l'histoire du 49.3, il a été inventé après la Seconde Guerre mondiale lors de la rédaction de la Constitution de la Ve République en 1958. L'objectif était de restreindre le pouvoir politique du Parlement. On parle ainsi de parlementarisme rationalisé. Il est vu par certains comme une disposition législative à la disposition du gouvernement en cas de blocage, qui permet de remettre de l'ordre dans le Parlement. Tandis que pour d'autres, c'est un moyen de passage en force, considéré comme le symbole de la monarchie républicaine. Quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, il faut garder en tête que le 49.3 prive les parlementaires de leur droit de délibération, d'amendement et de vote. La gauche, le Rassemblement national et la Première ministre elle-même ont ainsi saisi le Conseil constitutionnel pour que soit examiné le texte de la réforme des retraites et son processus d'adoption. Car le gouvernement n'a pas seulement eu recours au 49.3 pour faire passer cette réforme. Il a aussi sollicité l'article 47, alinéa 1 de la Constitution, qui permet de raccourcir le temps des débats à l'Assemblée à 50 jours. Pour ensuite utiliser l'article 44, alinéa 3, qui contraint le Sénat à se prononcer par un vote unique sur une partie, voire la totalité du projet de la loi. Le débat parlementaire a ainsi été écourté. Et c'est ce qui conduit l'homme politique Jean-Luc Mélenchon à penser que le Conseil constitutionnel annulera, probablement, la procédure parlementaire de la réforme des retraites. C'est aussi ce qu'a affirmé le professeur de droit constitutionnel Dominique Rousseau sur France Info, en déclarant « Il n'y a pas vraiment eu de débat clair et sincère. Or, c'est une exigence constitutionnelle. » L'autre point de constitutionnalité qui fait débat est le véhicule législatif utilisé par le gouvernement pour faire passer la réforme. Car depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, l'usage du 49.3 est limité à un projet ou une proposition de loi par session pour les projets de loi de finances et de financement par la sécurité sociale. Par cette réforme, c'est une loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui a été employée. Mais celle-ci est considérée par plusieurs spécialistes du droit comme un détournement de procédure, puisque plusieurs aspects abordés par la réforme n'auraient pas leur place dans ce type de loi. L'autre moyen auquel pourraient avoir recours les parlementaires pour empêcher la réforme est celui du référendum d'initiative partagée, une option envisagée par la NUP. Cette procédure consiste en l'organisation d'une consultation populaire sur une proposition de loi à l'initiative d'1/5 des membres du Parlement. Il faut aussi qu'elle soit soutenue par 10% des électeurs, dont les signatures doivent être rassemblées dans un délai de 9 mois. Cette demande de référendum a aussi été soumise au Conseil constitutionnel, qui en a examiné la recevabilité. Le texte du référendum d'initiative partagée proposerait notamment que l'âge de départ à la retraite ne puisse excéder 62 ans. Si toutes les voix sont réunies et que le Conseil constitutionnel valide le nombre de signatures, alors le président de la République devra organiser un référendum. À défaut d'aboutir, le référendum d'initiative populaire permettrait au moins de bloquer pendant 9 mois la mise en œuvre de cette réforme. De leur côté, les citoyens français, à l'annonce de l'adoption de la réforme par le 49-3, se sont massivement mobilisés lors de rassemblements spontanés dans toutes les grandes villes de France. Depuis la présentation, le 10 janvier 2023 par le gouvernement, du détail de cette réforme, les syndicats ont régulièrement organisé des manifestations, ayant les unes après les autres battu des chiffres records en termes de manifestants. Le rejet de la mention de censure et in fine le passage de la réforme par le 49-3 ont conduit à raviver la colère des Français et ainsi l'expression dans la rue, puisqu'un total de 3,5 millions de manifestants a été recensé par la CGT lors de la dernière manifestation de ce jeudi 23 mars. L'intervention d'Emmanuel Macron, accordée à TF1 le mercredi 22 mars, n'a pas permis d'apaiser la situation, bien au contraire. Le président maintient sa position, puisqu'il a exprimé son souhait de faire entrer en vigueur la réforme avant la fin de l'année. La manifestation du jeudi 23 mars qui a suivi l'intervention du président a en effet été particulièrement violente et s'est traduite par plusieurs débordements. À Nantes, par exemple, le tribunal administratif a été attaqué, tandis qu'à Bordeaux, la mairie a été incendiée. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a condamné sur RTL ces dégradations, et en particulier celles commises envers les symboles de la République. Pour autant, il ne s'agit pas de réduire ces manifestations à ces débordements, car bien qu'ils soient préjudiciables, ils ne sont pas pour autant représentatifs du comportement pacifique de la plupart des manifestants. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, il est fait état, au travers de vidéos d'amateurs et de journalistes, des cas de violences policières particulièrement violentes. La situation actuelle fait tristement écho aux multiples débordements qu'a connu le mouvement des Gilets jaunes. Pour l'heure, une 10e journée de mobilisation a été fixée au mardi 28 mars. Si le processus d'adoption de la réforme est en marche, la rue, plus que jamais, l'est aussi.